Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Blaise Ndali Kamala pour le journal.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal, dont voici les titres. Le président de la CNDH s'insurge contre l'enlèvement de plus de 300 jeunes cette semaine au sud Kivu par des hommes armés identifiés comme des rebelles de l'AFC M23. Paul Sampou exige la libération immédiate et sans condition de ces jeunes ainsi que la cessation des pratiques contraires au droit international humanitaire dans cette province sous occupation rebelle. En Ituri, la prestation du franc congolais est bien accueillie par la population, notamment les fonctionnaires dont les salaires avaient perdu de la valeur face au dollar américain. Mais beaucoup dénoncent le fait que les prix des produits de première nécessité n'ont pas baissé sur les marchés. Et dans certaines écoles et institutions financières, c'est encore l'ancien taux de 2900 francs congolais pour un dollar qui est toujours appliqué pour les transactions. L'invité de ce journal est Issa Saïdi Maïron, directeur au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Il est actuellement en mission au Maniema pour vulgariser la politique nationale d'agriculture durable. À cette occasion, il invite la population à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, essentielles pour lutter contre les changements climatiques. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est dit indignée par l'enlèvement de plus de 300 jeunes dans la nuit de lundi à mardi dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu, au sud Kivu. Dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Kapi, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sampou, affirme que ces personnes ont été kidnappées par des hommes armés identifiés comme des rebelles de l'AFC M23. Il exige la libération immédiate et sans condition de ces jeunes, ainsi que la cessation des pratiques contraires au droit international humanitaire dans cette province sous occupation rebelle. Paul Sampou au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda.
La CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces actes graves qui constituent des violations manifestes des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment le droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité humaine. La CNDH rappelle que de tels enlèvements collectifs s'apparente à des crimes graves du droit international pouvant être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de conflit armé et visent la population civile. La CNDH exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes enlevées ainsi que la cessation de ces pratiques contraires au droit international humanitaire et aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés par la République démocratique du Congo depuis plusieurs années.
Restons au sud Kivu où l'Église catholique de Bukavu commémore ces mois d'octobre, la mémoire de trois de ces prélats décédés au plus fort des guerres dites de libération dans l'est de la RDC. Ces conflits ont directement touché des évêques de Bukavu, notamment Christophe Munziyiroa, assassiné, et Emmanuel Catalico, décédé après avoir subi des persécutions. L'abbé Justin Kunzi, directeur de la commission diocésaine Justice et Paix, appelle le peuple congolais à suivre l'exemple de ses évêques qui prônaient la paix, l'amour du prochain et le patriotisme. Il exhorte également la jeunesse à promouvoir la cohésion sociale en parole et en acte pour perpétuer la vision de ces figures emblématiques. Écoutons l'abbé Justin Kunzi au micro de Radio Kapi.
Nous faisons mémoire de ces hommes pour que les plus jeunes comprennent qu'il y a eu des hommes de Dieu, des hommes de cette province, des hommes de cette sous-région qui ont prêché la cohésion sociale en parole et en acte. Et c'est pour cela que nous devons pérenniser leur mémoire et nous devons toujours continuer à en parler dans les écoles, dans les églises, avec tout le monde. C'était des hommes ouverts à tout le monde et l'Église doit toujours continuer à être ouverte vers les périphéries existentielles où les gens vivent côte à côte les mêmes réalités. Dans cette sous-région et dans ce pays ici, dans cette zone est, nous partageons le même soleil, nous mangeons le même sambaza, nous partageons les mêmes lieux de socialisation comme les marchés et les églises. Mais aussi nous avons les mêmes défis. Les jeunes actuellement, ils ressemblent à cette génération Android qui accumule une science sans conscience, qui veut vivre sans la valeur du sacrifice. Je crois que Mouziro prendrait même un fouet pour dire à ces gens, mais réveillez-vous, mettez-vous au travail, aimez votre patrie, aimez votre province, aimez vos églises, aimez vos écoles.
En Ituri, l'appréciation du franc congolais est bien accueillie par la population, notamment les fonctionnaires dont les salaires avaient perdu de la valeur face au dollar américain. Mais beaucoup dénoncent le fait que le prix des produits de première nécessité n'ont pas baissé sur les marchés. Dans certaines écoles et institutions financières, c'est encore l'ancien taux de 2900 francs congolais pour un dollar qui est toujours appliqué pour les transactions. Isaac Remoyope pour d'autres détails.
À Bounia et dans plusieurs agglomérations, les cambistes appliquent désormais le taux de 2600 francs congolais pour 1 dollar, conformément à la décision du gouvernement visant à valoriser la monnaie nationale. Une mesure saluée par la majorité des habitants, notamment les enseignants dont les salaires étaient fortement affectés par la dépréciation progressive du franc congolais. Ils appellent toutefois le gouvernement à poursuivre ses efforts pour revenir à l'ancien taux de 2600 francs congolais. Florencier Loulou, président du syndicat des enseignants des écoles catholiques à Ituri.
Considérable. Nous cherchons que les francs congolais puissent recouvrir le doré sa valeur normale.
Mais de nombreux fonctionnaires et parents constatent que les prix des marchandises restent inchangés. Dans certaines écoles, les frais scolaires sont encore calculés au taux de 2900, voire 3000 francs. Ils demandent des sanctions contre ceux qui refusent d'appliquer les nouveaux taux. Un habitant de Bounia.
Les commerçants n'arrivent pas à baisser leurs taux et sont toujours dans le taux de 29 ou 30. Même dans des établissements des écoles, c'est comme ça. Les autorités doivent envoyer les gens sur le terrain pour vérifier les taux d'échange.
De leur côté, certains commerçants se montrent prudents. Ils estiment que cette appréciation du franc congolais pourrait être passagère et craignent des pertes si la monnaie venait à se déprécier de nouveau. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, les métiers artisanaux intéressent beaucoup de jeunes du quartier Lutendile dans la commune de Mongafula. Ces métiers, devenus un abri pour plusieurs jeunes, est une réponse tant soit peu au problème du chômage et des délinquances juvéniles dans la ville province de Kinshasa. C'est le cas de ces jeunes que nous avons rencontrés dans un atelier de fabrication de casseroles. Leur souhait, c'est entre autres être appuyés pour développer davantage leur travail. Ils invitent les jeunes à éviter l'oisiveté. Abraham Kabuka les a rencontrés. Suivez son reportage.
Dans cet atelier du quartier Lutendele, dans la périphérie de Mongafula, nous rencontrons 8 jeunes garçons en train de fabriquer le marmite en aluminium. Marmite qu'ils revendront ensuite à des prix abordables. Ici, les prix sont fixés selon la taille. La petite casserole coûte 10 000 francs, la moyenne 30 000 francs. Et la plus grande se négocie entre 50 000 francs et 80 000 francs. Ces métiers témoignent l'un des jeunes artisans est un moyen de survie pour eux, mais aussi pour leur famille.
Oui, on se retrouve parce que ça nourrit des familles, ça construit aussi des maisons, ça aide vraiment en tout et pour tout.
Pour ces artisans, la plus grande difficulté actuellement, c'est la rareté de matières premières, notamment de moteurs, de véhicules et motos, des disques, de freins, des jantes, etc. Ils appellent le jeune à ne pas rester le bras croisé. Cet appel est aussi lancé aux jeunes diplômés en attente d'un travail.
Bon, je peux conseiller les jeunes congolais à travailler, à ne pas être comme des mendiants à demander toujours. Et dans notre chantier, on a besoin de beaucoup de personnes qui peuvent nous aider à travailler, à faire des marmites.
Pour ces artisans, il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des sortes de gens.
À Kisangani, Djedidia Mabela, activiste du mouvement citoyen Lucha, a été condamné hier jeudi à 6 mois de prison. Il a été reconnu coupable de propagation de faux bruits selon une source judiciaire sur place. Un verdict vivement dénoncé par le mouvement citoyen Lucha. On écoute Stuart Moindo, l'un des porte-parole de ce mouvement. Il a été joint par Poli Mouzalia.
La condamnation de notre camarade Djedidia Mabela à 6 mois de prison est totalement inacceptable, honteuse et scandaleuse. Donc ce n'est pas normal que dans une démocratie, que la justice soit utilisée comme un outil de répression au service des autorités politiques. Pour rappel, notre camarade n'a fait que participer à une manifestation qui appelait l'Assemblée provinciale à initier un contrôle parlementaire de l'action du gouvernement provincial qui utilise le fonds public de manière totalement opaque et sans tenir compte des priorités de la population. Cela n'est pas illégal, que ce soit dans le fait de l'exprimer, mais aussi comment les camarades l'ont fait, parce que la manifestation qui a eu lieu le 30 septembre était totalement pacifique. Les camarades ont été arrêtés le premier, déjà les deux, il est condamné, ce qui veut dire que la justice, en fait, ne cherchait pas à connaître la vérité, elle répondait juste à un agenda, à un dictat politique.
À Lubumbashi, un militaire est accusé d'avoir spolié une école publique au quartier Kilimansimba, dans la commune annexe. Le maire de la ville d'intérim s'est rendu sur les lieux mercredi et a ordonné que ses militaires et sa famille soient délogés. Paul Munanga nous fait le point.
Il s'agit d'une école publique qui est construite par la mairie de Lubumbashi en faveur de la population de cette contrée de la périphérie de la ville. Les travaux ne sont pas encore achevés. D'après certaines sources, un militaire a élu domicile dans cette école. Il a même construit une mise en valeur dans l'enceinte de l'école et passé avec un mégaphone pour sensibiliser la population que c'est son école et qu'il va procéder à l'inscription des élèves, rapportent les mêmes sources. La population avait peur de passer au niveau de cet établissement scolaire à cause de la présence de cet élément de FRDC. Ainsi, elle a pris l'initiative de faire un rapport aux autorités municipales. Le maire de Lubumbashi à l'intérim est descendu sur les lieux. Patrick Kafuimbi a ordonné que ses militaires et sa famille soient délogés et le militaire a été arrêté immédiatement. Cet élément de FRDC mis en cause n'a pas avoué les raisons de l'occupation illégale de cet établissement scolaire. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Aider les institutions financières et les entreprises du Maniema à mieux évaluer les risques environnementaux liés à leur activité. Tel est l'objectif d'un atelier organisé jeudi à Kindu. Les participants, issus des divers secteurs de la vie économique et du secteur public, ont procédé à la récolte des données des terrains pour mettre à jour leurs documents sociaux et leurs plans d'action en matière de prévention des risques environnementaux. Le ministre provincial intérimaire des Finances, Masumbu Koruta La Francis, a pris part à cette activité. Il s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif, c'est d'aider les institutions financières et les entreprises à comprendre et à évaluer leur exposition aux risques liés à la nature. Donc, cet atelier revêt une importance capitale car il s'agit de recueillir les avis et suggestions des parties prenantes en vue de mettre à jour les outils de gestion des risques environnementaux et sociaux. Et notre province, évidemment la province du Maniema, n'est pas épargnée. Les événements récents qui nous tous nous savons, avec les données historiques, nous rappellent la vulnérabilité de nos communautés face à la catastrophe naturelle et au mouvement des terrains. Comme vous le savez, pour prendre les bonnes décisions, nous avons besoin de données fiables, précises et à jour. Donc, la phase de collecte des données des terrains qui démarre aujourd'hui reste l'épine dorsale de notre démarche avec la collaboration de notre partenaire qui est le COREF. Ce double processus de collecte scientifique et de consultation démocratique va nous permettre d'élaborer un plan de gestion des risques environnementaux pour la province du Maniema et qui sera non seulement techniquement solide mais aussi légitime et partagé.
Vous le savez peut-être déjà, le mois d'octobre est aussi celui dédié à la campagne annuelle mondiale de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, le lancement des activités a eu lieu ce jeudi dans la prison pour femmes de la ville. Ici, les détenues femmes ont été sensibilisées à la prévention et à l'importance du dépistage régulier du cancer du sein. Elles ont également été dépistées par des gynécologues des contingents de la MONUSCO et ceux de l'hôpital général de référence de Beni. Pour le médecin directeur de cet établissement public qui a supervisé cette activité, c'est pour inciter ces femmes à se faire consulter régulièrement, car plus tôt le cancer du sein est détecté, plus il y a des chances de les guérir. Le docteur Jérémy Mouindo explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes venus avec cette mission de sensibiliser toutes ces passionnaires de la prison, leur parler d'abord de ces problèmes de cancer. Nous sommes en train de leur parler de techniques simples qui peuvent aider chaque femme à pouvoir détecter un problème de santé si jamais elle constate dans son organisme qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui a apparu sur son corps. On vit d'aller directement consulter le médecin. Nous sommes là avec notre partenaire qui est la MONUSCO. l'UNISCO. Nous sommes une équipe assez costaud. Il y a des gynécologues au sein de l'équipe, il y a des infirmiers. Ils sont venus avec un lot important de médicaments, composé de tout ce qu'il faut pour soigner non seulement les infections, mais aussi d'autres problèmes de santé. Donc, c'est l'occasion pour nous à dire encore une fois merci à la UNISCO qui a fait répondre à notre appel pour venir nous appuyer dans la prise en charge de ces pensionnaires de la prison.
Signalons que cette sensibilisation a été suivie de consultations gratuites des pensionnaires de la maison carcérale de Kangbaï ainsi que celle de l'établissement de garde pour enfants.
Actualité internationale.
Côte d'Ivoire, dans un communiqué publié jeudi 2 octobre, le Conseil national de sécurité affirme avoir pris la décision d'interdire tout rassemblement public visant à contester les décisions prononcées par le Conseil constitutionnel au début du mois de septembre. La mesure intervient alors que les deux principales formations de l'opposition prévoyaient d'organiser une marche pour exiger un dialogue pour les élections inclusives, transparentes et démocratiques samedi 4 octobre.
L'invité.
L'invité de la rédaction est Issa Saïdi Maïron, directeur au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Il est actuellement en mission au Maniema pour vulgariser la politique nationale d'agriculture durable. À cette occasion, il invite la population à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement essentiel pour lutter contre les changements climatiques. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Issa Saïdi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous procédez à la vulgarisation de la politique de l'agriculture durable ici dans la province du Maniema. Il s'agit de quelle politique exactement?
Comme vous l'avez indiqué, il s'agit de la politique de l'agriculture durable et le pays migre vers des orientations d'une agriculture qui respecte l'environnement, vers une agriculture qui stabilise la forêt.
D'où est parti ce constat? Pourquoi à faire cette politique?
Compte tenu du changement climatique qui n'est pas bon pour l'agriculture, la République avait déjà mis en place la stratégie RED. Et cette stratégie RED et les engagements pris avec l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, le ministère de l'Agriculture a pris l'engagement d'élaborer une politique qui, au fait, renferme les orientations vers une agriculture qui respecte l'environnement, une agriculture qui doit quitter d'être moteur de la déforestation en République démocratique du Congo, et une agriculture qui non seulement elle sera pratiquée par les générations actuelles, présentes, mais qui préserve aussi le sol et l'environnement pour l'agriculture aux générations qui vont venir après.
Alors cette politique, quand est-ce qu'elle va entrer en vigueur dans notre pays?
La politique a déjà été adoptée par le gouvernement depuis 2023. En fait, il doit déjà être mis en place. Mais compte tenu de certains facteurs, le Maniema pourrait être peut-être la 8e, 9e province pour bénéficier de la vulgarisation. Il y a des provinces qui ont déjà connu la vulgarisation depuis 2024. Au moment où nous sommes en train de lancer la vulgarisation ici, il y a d'autres équipes qui sont en Bandaka dans l'Équateur et au Kasaï central pour faire le même exercice.
Qu'est-ce qui suivra après cette vulgarisation?
Ce qui suivra, les documents donnent des orientations et demandent aux provinces d'élaborer leur politique, leur stratégie de mise en œuvre au niveau de la province. Dans l'atelier, les participants ont déjà élaboré une ébauche de stratégie de mise en œuvre de la politique et ont même identifié les sources de financement pour la mise en œuvre de cette politique. Donc tout va très bien et l'agriculture est à décentraliser. On ne voit pas qu'est-ce qui va encore empêcher cette mise en œuvre.
Et comme vous demandez à la population d'émigrer, est-ce que vous allez également accompagner, donner des moyens à cette population de pouvoir respecter cette politique de l'agriculture?
Tout est prévu dans les documents. Actuellement, le gouvernement donne par la campagne agricole, donne des intrants aux agriculteurs. Mais maintenant, avec cette politique, on va mettre le cadastre agricole, on va mettre l'assurance agricole, on va mettre le Fonds national de développement agricole, FONADA. Et il y a beaucoup d'instruments qui vont accompagner la mise en œuvre de cette politique pour que rien n'échappe au contrôle.
Est-ce que vous avez pensé à la population landa dans votre vulgarisation? Parce que si vous vous limitez seulement aux officiels, je pense que la population bénéficiaire de cette politique ne va rien comprendre.
Différemment à la note des politiques, qui était destiné aux décideurs, la politique de l'agriculture durable s'adresse à tout le monde et exige même, s'il y a des concertations à faire, même les vulnérables, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes, tout le monde doit participer à la prise de décision. Et cette politique-là envisage la mise en place du Conseil consultatif national pour l'agriculture. Et ce Conseil consultatif qui donne des avis est représenté jusqu'au niveau des territoires, jusqu'au niveau des secteurs. Et vous ne pouvez rien faire sans impliquer toute la population.
Et qui vous finance?
La première source de financement, c'est l'État. L'État prévoit dans ses lignes budgétaires des ressources pour financer l'agriculture. Il y a le bailleur de fonds, BAD, Banque mondiale, qui au travers de différents projets financent le secteur agricole. Il y a les privés, il y a les associations. C'est tout le monde parce que l'agriculture concerne tout le monde.
Qu'est-ce que vous dites à toute la communauté qui vous écoute à ce moment, surtout dans des lieux où la vulgarisation de la politique de l'agriculture durable est en train de se dérouler?
C'est demander à toute la population de s'approprier cette politique d'agriculture durable parce que c'est avantageux pour eux, pour leur terroir, pour le Congo, la province, l'Afrique et même le monde parce que nous sommes les poumons du monde.
Monsieur Issa Saïdi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Madame. Et c'est par ici aussi que nous mettons un point final à notre grande édition du journal du matin, coordonné et supervisé par Poli Mouzalia et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengontswalo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.